L'orateur suivant n'a pas grand besoin d'introduction puisqu'il s'agit du professeur Jean-Noël Robert. Vous savez que nous avons dû réorganiser un tout petit peu le programme puisque Barbara Cassin ne peut pas être là. Le professeur Jean-Noël Robert, vous le connaissez tous puisque, comme on disait ce matin pour Alain Cohn, vous suivez tous ses cours à la chaire de philologie de la civilisation japonaise qu'il occupe depuis 2011. C'est un grand spécialiste de l'histoire du Japon et de l'histoire du bouddhisme au Japon et de ses origines en Chine. Il a été au CNRS, à l'École pratique des hautes études, avant de rejoindre le Collège de France en 2011. Il est membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et il va nous parler ce soir, sous le titre que j'avais noté, « La tritemporalité sino-japonaise et le bouddhisme ».
Merci beaucoup. Oui, je suis désolé de réapparaître devant vous. Comme nous l'avons dit dès ce matin, il y a un dicton chinois qui n'est pas si vieux que cela, qui dit d'une époque où la viande de mouton était une délicatesse, mettre une tête de mouton à l'étal et vendre de la viande de chien. Ce qui veut dire qu'il y a tromperie sur la marchandise. Nous avons mis Barbara Cassin sur le programme et vous n'avez que moi. Je suis vraiment désolé. La viande de chien. Donc je vais essayer de parler d'un sujet qui m'intéresse depuis longtemps et sur lequel j'ai déjà fait quelque chose. Je vais repréciser des choses que j'ai faites et essayer de les ouvrir du côté du Japon. Donc la tritemporalité, comme le nom l'indique, ce sont les trois temps. Donc je voudrais apporter ma contribution à ce colloque à travers des faits de langue significatifs mais ponctuels qui me paraît jeter une lumière intéressante sur une question plus vaste, c'est la façon dont les langues appréhendent le temps. La pensée du temps, la flèche du temps qui nous est familière, orientée du passé vers l'avenir par l'intermédiaire du point insaisissable qu'est le présent, structure depuis des siècles notre vision de l'univers. Et en disant « notre vision », j'entends bien l'ensemble de l'humanité, celle en tout cas qui s'exprime dans les grandes langues de culture du monde. Ce n'est pas la peine d'énumérer ces langues, disons simplement qu'il s'agit de la presque totalité des cultures écrites qui reconnaissent la triple temporalité de l'être, passé, présent, futur. Je dis bien de l'être, car c'est le verbe être qui a sans doute fourni le paradigme le plus immédiatement intelligible de la tritemporalité. Les épitaphes latines du Moyen-Âge ont conjugué toutes les combinaisons possibles de la sentence « quod est fui, quod sum eris ». « J'ai été ce que tu es, tu seras ce que je suis ». Elle dérive elle-même à l'évidence des variantes antiques de l'épitaphe, que je cite en latin et pas en grec, il y a trop d'hellénistes distingués ici pour que je le fasse, « non fui, fui, non sum, non curo ». « Je n'étais pas, je fus, je ne suis plus ». Je m'en fiche. Venant d'une sentence grecque que je laisse à plus savant le soin d'expliquer, et inutile de souligner que le « to be or not to be » shakespearien dans la troisième ligne de ces expressions. Mais vous voyez vous-même qu'entre la sentence antique et la sentence médiévale, il y a une différence de sens dans « je suis ». Le « non fui, fui, non sum », c'est le verbe d'existence. « Quod est fui, je fus ce que tu es », c'est le verbe « être d'état ». Et je pense que la transition par le christianisme a dû intervenir là-dedans, mais je n'interviendrai pas ici là-dessus. Le grammairien, ou l'encyclopédiste Varron, donc 116-27 avant Jésus-Christ, qui était l'un des premiers grammairiens latins, remarquait dès le 1er siècle donc, que le verbe comprenait trois temps, le passé, le présent, le futur. Dans la De Lingua Latina, il nomme ces trois temps « praeteritum »,« praesens », »,« futurum ». Évidemment, c'est relié à la grammaire de Denis de Trache, je ne reviens pas là-dessus, avec une nomenclature à peu près très, très proche. Et on retrouve aussi à la fin de l'Antiquité, peut-être le dernier écrivain latin avant le Moyen-Âge, c'est-à-dire Isidore de Séville au début du 7e siècle, « Grammaticorum verba in tria cadut tempora », n'est-ce pas, les mots des grammairiens, c'est-à-dire il les distingue des rhéteurs, tombe en trois temps, « instance », il parle de « instance » au lieu de « presence », vous voyez que la nomenclature n'est pas encore déterminée, « facit »,« fecit », »,« faciet », n'est-ce pas, il donne les trois temps du verbe « être ». Et de même, Sénèque, allant entre les deux, au 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons dans sa De brevitate vitae, la vie est divisée en trois temps, quod fuit, quod est, quod futurum est. Il ne dit pas quod erit, il dit ce qui est à venir, ce qui sera. La question se pose de savoir pourquoi Sénèque, au lieu de citer la forme erit, a préféré une sorte de temps composé avec un participe futur. Est-ce pour renforcer le nom même de ce temps, futurum, futurum? Mais la nuance est intéressante en ce qu'elle montre que la notion du futur est dès lors séparée de son expression grammaticale directe. C'est-à-dire, et c'est important pour le propos qui va suivre plus tard, qu'une fois que l'on a dégagé la notion de futur comme distincte du passé et du présent, le présent lui-même étant désormais circonscrit à une dimension intermédiaire entre les deux autres temps, il n'est pas nécessaire qu'il y en ait une réalisation grammaticale directe. Je parle en philologue et pas en linguiste, bien sûr. Il suffit d'en avoir une claire conscience pour la transposer dans une autre langue sans qu'elle ait forcément les outils grammaticaux correspondants. Ainsi, la littérature apocalyptique, qui a fleuri dans le monde juif aux alentours du début de l'ère chrétienne, est marquée comme il se doit par une description de l'avenir. C'est même le temps essentiel, le futur et l'avenir, celui sur lequel porte la révélation, l'apocalypse, et le début de l'apocalypse, c'est l'apocalypse quam dedit illi Deus, n'est-ce pas, que donner à Jésus-Christ le Dieu pour la montrer à ses serviteurs. Nous sommes bien dans l'avenir. Il est d'autant plus étonnant de voir la salutation de Jean, donc l'écrivain de l'Apocalypse, Pax Abeo, la paix de celui, qui est et qui erit, erat et qui venturus est. Donc qui est, qui était et qui est à venir. Et c'est très intéressant de voir ça à la lumière de ce qui vient d'être dit. Pourquoi pas erit ou à la rigueur futurus est, comme chez Sénèque. Ce n'est pas la faute du traducteur latin ou de Jérôme qui a donné la version finale, puisque le grec ne dit rien d'autre, n'est-ce pas je prononce à la moderne, excusez-moi, mais « oon kai oin kai oer homenos », celui donc qui l'étend, celui qui était et celui qui vient. Alors là, je vais essayer d'illustrer la maxime d'Audiard dans « Les tontons flingueurs » en parlant de ce que je ne connais pas, et donc je vais oser quelque chose, mais je demande votre indulgence, et puis ça pourra... Donc il s'agit bien évidemment d'un détour par la langue hébraïque, laquelle, comme l'arabe sous sa forme classique, excusez-moi encore, toujours Audiard, n'avait pas du tout les mêmes distinctions grammaticales que le grec ou le latin, puisque la division fondamentale était entre les deux aspects, perfectif, imperfectif ou accompli, inaccompli, qui ne recouvraient pas du tout la temporalité verbale. Or, il semble bien que ce soit sous l'influence du zoroastrisme que ce soit élaboré dans la pensée juive tardive ces doctrines apocalyptiques reposant sur une vision tritemporelle de la Perse ancienne. Les trois âges du monde reposant cette fois directement sur la structure grammaticale de la langue européenne qu'est l'ancien persan. Dès lors que la troisième dimension temporelle, le futur à venir, était définie, elle pouvait être transférée dans une langue ne disposant pas de ce futur dans sa conjugaison. C'est ainsi que l'hébreu a eu recours au verbe « venir », le monde futur étant désormais appelé « le monde qui vient à venir »,« haolam haba ». Un bel exemple de ritournelle langagière, donc, où nous voyons une vision religieuse portée par une langue se transférer à une autre langue sous une adaptation enrichissante pour revenir presque méconnaissable dans un environnement linguistique voisin de la langue d'origine, mais en gardant son décalage, son altération désormais irréductible. Par cette brève et approximative présentation, je voulais simplement rappeler que le paradigme verbal tritemporel « fui, sum, ero » qui ne s'appliquait peut-être pas à l'origine, qui ne s'appliquait peut-être à l'origine qu'à la vie humaine, comme dans la citation de Sénèque ou les épitaphes, a pu servir de modèle à l'élaboration bien plus vaste, incommensurable, d'une idée des âges du monde en autant de dimensions séparées les unes des autres, le futur verbal devenant l'avenir du cosmos, et qu'une telle tritemporalité, transformée en vision du monde, devenait indépendante de la grammaire. Elle pouvait être reçue dans les langues qui ne faisaient pas de distinction grammaticale tritemporelle. Pour illustrer ce fait, il faut passer de l'autre côté de l'Eurasie et un autre réseau d'interactions langagières parmi les plus passionnantes qui a eu lieu dans l'Ancien Monde. De même que nous avons suggéré l'importance des idées religieuses et de l'obligation qu'ont les groupes religieux de faire passer ces idées dans des systèmes linguistiques manquant des structures grammaticales qui pouvaient faciliter leur transmission, par exemple à la différence de la relation gréco-latine, par exemple, pour les évolutions qui se sont produites dans ce monde antique qui nous est plus proche, de même, les mêmes causes ont produit des effets analogues dans le monde extrême-oriental. Dans ce réseau d'interactions, la propagation du bouddhisme a joué un rôle immense. et particulièrement fascinante est l'histoire de la transmission vers l'Est, dans la sphère culturelle chinoise, de ces doctrines nées en milieu indien et exprimées dans des langues qui n'avaient que fort peu à voir avec la langue chinoise, quelle que soit l'aire d'extension que l'on accorde à ce terme. Ici, pour simplifier une question que l'on imagine bien sûr complexe, nous en avons vu une illustration ce matin avec l'intervention de notre collègue Huette, nous ne tiendrons compte que de la langue indienne représentée dans la vaste majorité des textes traduits en chinois, c'est-à-dire le sanskrit. Il est bien entendu qu'il s'agit souvent d'un état du sanskrit, et alors encore une fois très différent de celui de ce matin, très différent donc de celui qui est représenté dans les grands textes littéraires indiens. On pourrait le comparer à ce qu'est le latin des chrétiens, pour reprendre le titre d'un livre décisif de Christine Moorman, et pas Marie-Thérèse, comme je disais tout à l'heure à Irène, je suis désolé, en comparaison du latin classique de Cicéron et Virgile. Nous en dirons simplement que l'essentiel des faits grammaticaux sont communs aux deux états de la langue, le sanskrit classique et le sanskrit bouddhique, et notamment celui qui nous intéresse ici, à savoir un temps verbal futur, clairement distingué dans la conjugaison. Le grand philologue indianiste Louis Renoux note bien dans sa grammaire sanskrite la vitalité de ce temps, alors qu'au cours de ce qu'il appelle la décadence progressive du verbe classique, une décadence dont on a peu conscience, la plupart des formes verbales conjuguées ont graduellement disparu au profit de l'utilisation des non-verbaux. Il souligne aussi que le verbe sanskrit indique avec une précision relative, ce qui a un sens positif chez lui, le temps absolu, c'est-à-dire nos propres catégories temporelles, et certaines modalités simples. Alors, dit Renoux, que la notion d'aspect n'est rendue par aucun procédé stable. Nous sommes donc à peu près dans la situation du grec commun, la koiné, et du latin. Il suffit d'ailleurs de lire les grands textes scripturaires, les sutras bouddhiques, qui constituent l'essentiel du message bouddhique pour les missionnaires indiens ou centra-asiatiques qui en ont traduit des milliers de pages au cours d'une période qui s'étend environ du 2e siècle au 7e siècle après Jésus-Christ, traduit en chinois donc, pour constater que l'essentiel du système verbal tel que nous l'avons résumé est là, présent, aoriste, futur, parfait, et une grande majorité de formes périphrastiques. Il y a en plus les modes verbaux tels que le subjonctif conditionnel, qu'il serait très intéressant de traiter en raison de la difficulté qu'eurent les premiers traducteurs à en comprendre les nuances et aux erreurs que cette mécompréhension a occasionnées. Mais cela nous emmènerait trop loin aujourd'hui. La succession des trois temps est dans la grammaire indienne autant grammaticale que philosophique. Ces tri-kalaha sont le passé, atita, le présent, vartamana, le futur, anagata. On retrouve dans le nom sanskrit du passé, atiita, n'est-ce pas, atiita, la même racine verbale i que nous avons dans le latin, praeter itum, ita itum, vous voyez, c'est la même chose, pré, les préta, les praeita, les trépassés, etc. Vartamana, c'est sur un participe composé sur une racine qui signifie avoir lieu, se produire, le présent, c'est ce qui se produit, c'est ce qui se passe, et anagata signifie littéralement le non venu, l'avenir. Ils font donc une vision du monde qui informe tous les niveaux de l'existence. Un exemple particulièrement frappant est la façon dont les 12 liens causaux, je vous passe les termes sanskrit et chinois, c'est cette concaténation, cet enchaînement causal donc, qui va de l'ignorance qui est fondamentale jusqu'à la vieillesse et la mort, si nous naissons, vieillissons et mourons, c'est à cause d'une ignorance primordiale qui nous cache notre état. Et donc ces 12 liens causaux qui expliquent l'enchaînement de nos existences, ils sont liés à la fois à l'embryologie, au développement allant du fœtus à la mort, mais aussi aux trois temps, les premières étapes relevant du passé, les étapes médianes du présent, l'ultime du futur. Les trois temps sont bien entendu étroitement liés à l'un des enseignements fondamentaux du bouddhisme, la doctrine de l'acte, du karma, puisque l'acte ne peut se concevoir sans la tritemporalité. Notre existence présente est la conséquence des actes commis dans une existence passée. Et dans cette existence présente, nous constituons par l'accumulation de nos actes, bons ou mauvais, notre existence future. Cette pensée du karma porte à un niveau paroxystique la tritemporalité. Désormais, les trois temps ne sont pas ceux de la continuité d'une vie humaine, mais ils constituent des entités séparées les unes des autres, indépendantes, chaque temps est constituant en réalité un monde en soi qui n'est relié que par la logique du karma. Seulement, qu'est-ce qui passe avec le karma ? Nul n'en sait rien. C'est précisément ce sens qui est mis en relief dans la locution chinoise désignant les trois temps, san shi en chinois, san zi en japonais, que la prononciation japonaise d'ailleurs désigne immédiatement dans la langue japonaise comme un terme bouddhique, à la différence de la prononciation chinoise. Si cette locution est assez clairement perçue comme bouddhique, même en Chine et dans les pays concernés par ce que j'appelle la sinoglossie, en revanche, les trois termes qui la composent, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur, que je vous épargne, sont parfaitement intégrés dans le lexique usuel des langues d'Asie orientale, et ce, depuis des siècles. Maintenant, les noms des trois temps sont compris de tout le monde. La conséquence directe en est que tous les locuteurs de langues sinoglossiques, comme d'ailleurs les locuteurs des langues d'Asie du Sud-Est directement influencés par le sanskrit et dans une moindre mesure le pali, une autre langue indienne bouddhique, n'est-ce pas, découpent le temps en trois, comme tous les locuteurs des langues de la moitié ouest de l'Eurasie. Une telle unanimité peut laisser penser que nous aurions affaire à un universel de la pensée, un peu comme la distinction entre droite et gauche, entre avant et arrière, etc. Mais là, nous avons quelqu'un qui nous parlera tout à l'heure, demain, avec, oui, en la personne de William Hanks, d'autres réflexions à ce sujet. Or, il n'en est rien. Le fait est que nous ne trouvons pas cette nomenclature des trois temps sous aucune de ces formes. Il y a des formes abrégées en chinois aussi qui sont courantes. Nous ne trouvons aucune trace de ces trois temps, de la dénomination des trois temps, dans la longue période qui précède la venue des traductions bouddhiques chinoises. La Chine ignorait tout simplement la tritemporalité avant que les traducteurs bouddhiques ne l'importent dans la langue. En proférant une telle assertion, je ne prétends certes pas que les Chinois de l'Antiquité n'aient eu nulle notion du temps futur ni de l'avenir. Ce serait d'autant plus inexact et paradoxal que les documents les plus anciens que nous possédions de l'écriture chinoise concernent précisément la divination, c'est-à-dire l'art de prédire l'avenir. Mais il est évident que l'avenir concerné par ces techniques divinatoires est l'avenir immédiat, celui qui est dans le prolongement immédiat du présent, le futur proche donc. Les devins qui gravaient leurs omoplates de cervidés se souciaient de l'issue prochaine d'une entreprise présente. La prochaine chasse royale ou la tournée d'inspection du royaume seront-elles fastes? La maladie du souverain ou du noble pourra-t-elle être traitée? Les trois temps, et rappelons qu'ils sont aussi désignés par une autre expression que l'on trouve d'ailleurs dans la traduction des textes manichéens, donc d'origine iranienne, n'est-ce pas, les trois délimitations, donc à la fois comme expression globale et dans leurs appellations particulières, n'apparaissent qu'avec les traductions de textes bouddhiques d'origine indienne. Il faut d'ailleurs rappeler que dans l'ancienne vision du monde chinoise, le temps, non pas grammatical mais historique, n'est le plus souvent considéré que sous deux aspects, l'antiquité ou les temps anciens, et le temps présent, le maintenant. Comme on le sait bien, l'antiquité n'est pas un simple âge historique, c'est le passé idéalisé, l'âge des héros culturels et des premiers et grands souverains, les empereurs vertueux des premières dynasties. Le temps présent, en revanche, est la période de dégradation des anciennes vertus. Et sous cet aspect, ce à quoi l'on doit s'efforcer, c'est de rediriger le présent vers la perfection du passé. C'est évidemment le sens le plus répandu donné à l'enseignement de Confucius, qui n'aurait eu d'autre inspiration que de restaurer le gouvernement des souverains antiques. Nous sommes à l'évidence dans une toute autre vision que celle qui s'impose largement avec la venue du bouddhisme. Et il est évident aussi que cette doctrine nouvelle venue en Extrême-Orient y ouvre les portes de l'avenir, qui, par-delà la loi du karma, devient aussi l'horizon de plusieurs enseignements dont nous esquisserons ici les aspects les plus importants pour notre propos. Le domaine d'extension du karma est proprement infini, vers le passé comme vers l'avenir. Cet infini est spatio-temporel. L'infini de l'espace est indissociable de l'infini du temps. Les deux s'expriment en des nombres qui étaient inimaginables dans la langue chinoise pré-bouddhique, comme d'ailleurs dans la plupart des langues non-indiennes, à commencer par nos langues occidentales. On commence à partir de l'équivalent de 100 000, n'est-ce pas, l'aksha, et ensuite, multiplié par 100, nous obtenons les crores, n'est-ce pas. Ce sont deux mots que, sous le nom de en sanskrit, c'est lakshya et koti, mais sous le nom moderne lak et kror, vous le trouvez encore dans les journaux indiens anglais actuels, n'est-ce pas. Ensuite, nous avons matya, nayuta, prayuta, kambara, bingbara, akshobhya. Vous multipliez tout ça par 10 à chaque fois, n'est-ce pas, pour finir par l'indénombrable asankhya. Dans l'espace existent des mondes innombrables, dans toutes les directions. De la même façon, le temps est une succession tout aussi indénombrable d'âges cosmiques ou éons, les kalpas, en réalité la plus petite unité temporelle, qui est estimée de façon diverse, mais comprend à chaque fois plusieurs millions de nos années. Ce passage du chapitre 16 du Sutra du Lotus sur la longévité du Bouddha met clairement en corrélation l'espace et le temps pour exprimer l'immense antiquité de l'éveil du Bouddha. Alors, je vous le dis simplement pour que vous compreniez que ça veut dire beaucoup, n'est-ce pas ? Si on réduisait en atomes 5000 millions de myriades de milliards de quantités incalculables de mondes tricosmiques, je passe sur la définition, puis, ayant passé 5000 millions de myriades de milliards de royaumes, c'est-à-dire de mondes de Bouddha, vers l'est de l'univers, si l'on déposait un atome, et si, poursuivant ainsi vers l'est, on allait jusqu'à l'épuisement de ces atomes, si on les réduisait en atomes la totalité des mondes qui ont reçu un atome entre chaque intervalle, n'est-ce pas, comme de ceux qui n'en ont pas reçu, ça commence à faire beaucoup, et si chacun de ces atomes était un néon, un âge cosmique, eh bien, depuis que j'ai réalisé l'état d'éveillé, il se serait écoulé davantage encore de millions, de myriades, de milliards d'éons incalculables. Voilà donc pour le passé. Et pour l'avenir, la symétrie est parfaite, je ne vous la redis pas. Et le sutra du lotus fourmille de ces scènes solennelles que l'on appelle en chinois jibie, ou kibetsu en japonais, qui correspond au sanskrit vyakarana, la notification, ou que je traduis aussi volontiers par l'annonciation, c'est tout à fait cela. Et c'est un mot, ce vyakarana, qui signifie aussi grammaire en sanskrit, d'ailleurs, ce n'est pas inintéressant. C'est l'annonce détaillée par laquelle le Bouddha informe son disciple que dans un avenir immensément lointain, celui-ci deviendra à son tour un éveillé, aura tel nom, exposera telle loi qui durera tant de siècles ou d'âges cosmiques, selon le cas. C'est dans des passages de ce genre que les traducteurs ont dû faire preuve de toute leur habileté philologique, les traducteurs en chinois. Les notifications du Bouddha dans l'original sanskrit sont bien sûr exprimées au temps futur, repris tout au long de ces passages. Mais le chinois, comme chacun sait, n'a pas de conjugaison. S'il existe des adverbes ou auxiliaires, je parle du chinois classique, s'il existe des adverbes ou auxiliaires pouvant indiquer le temps, ils ne sont pas d'emploi régulier. Et surtout, ils ne sont pas spécialisés dans l'expression du temps futur. Un peu comme en anglais ou en grec moderne, ce seront des équivalents de vouloir qui sont utilisés. Plus systématiquement, certes, en chinois moderne, parce que la tritemporalité est désormais solidement implantée. Mais nous voyons justement dans les textes bouddhiques de la grande, antérieure déjà, mais qui culminent avec la grande période de traduction marquée par l'activité de l'atelier de Kumarajiva autour de l'an 400, donc, les traducteurs choisir un auxiliaire chinois, dang, n'est-ce pas, souvent utilisé au sens verbal de se trouver à faire quelque chose, s'occuper de, faire face, qui signifie même mettre dans le mille, etc., qui est souvent utilisé pour signifier l'obligation, pour le spécialiser dans l'expression du futur, comme dans la phrase équivalente à « tu deviendras Bouddha ». En chinois, donc, on dira « zhu dang zuo fo », qui est l'équivalent, le dang est l'équivalent du sanskrit « pavishyasi », qui est un futur, clairement marqué en sanskrit. Ce serait une erreur de traduire cette phrase chinoise par « tu dois devenir Bouddha », ce qui correspondrait pourtant à la compréhension immédiate d'un lecteur chinois. Ajoutons qu'un autre mot chinois de sens assez proche, ying, n'est jamais employé pour traduire le futur sanskrit. Il y a donc vraiment une spécialisation. Nous avons affaire à un idiolecte propre au texte bouddhique. C'est l'un des nombreux exemples de la façon dont la langue sanskrite a influencé le chinois. Et il est remarquable que les deux meilleures grammaires générales du chinois classique, l'une du XIXe siècle et l'autre du XXe siècle, en la personne de Edwin Poulet-Blanc, ne disent pas un mot de cet usage grammatical spécialisé de tang, qui est pourtant une claire intrusion du paradigme sanskrit dans la langue chinoise et qui ne peut être compris que comme tel si l'on veut traduire de façon adéquate la littérature secondaire, même écrite par des auteurs chinois, en chinois bien sûr, qui en découle. Mais répétons-le, l'essentiel n'était pas dans cette influence grammaticale. C'était bel et bien le transfert d'une vision tritemporelle du temps implantée profondément dans la pensée chinoise, désormais, qui constitue le fait marquant de cette transmission religieuse de l'Inde vers la Chine. L'histoire ne s'arrête cependant pas là. Il nous faut voir à présent la suite des aventures du futur au Japon. Tout d'abord, il convient de souligner l'immense différence linguistique entre les deux langues, le chinois et le japonais, quelque peu masquées au regard occidental par leur proximité géographique. Pour reprendre la vieille distinction, furieusement dépassée chez les linguistes, mais encore très utile pour les profanes, la langue japonaise est aussi agglutinante qu'on puisse l'être. Au regard du chinois classique, qui demeure un modèle de langue analytique, et le sanskrit apparaissant bien sûr comme le parangon des langues synthétiques. La principale et fondamentale différence est qu'alors que les mots, entre guillemets, du chinois classique, sont des entités autonomes dont la fonction grammaticale, nom, adjectif, verbe, adverbe, est largement déterminée par sa place dans la phrase, Et lorsque vous mettez deux ou trois mots chinois les uns à la suite des autres, ils entrent automatiquement en orbite autour et se définissent leur fonction grammaticale relativement, n'est-ce pas, à chaque fois. Donc, à la différence de ce chinois, donc, le japonais, à l'instar des langues européennes, et bien que ce soit de moins en moins vrai pour l'anglais, bien sûr, distinguent clairement par leur forme et leurs inflexions entre substantifs, verbes et adjectifs. Ceci étant d'ailleurs plus proche des verbes que des substantifs en japonais, à un degré moindre que le coréen, enfin, ce n'est pas notre propos. Le verbe se conjugue par l'adjonction de suffixes qui en précise le temps, ou plutôt l'aspect, selon les interprétations plus récentes des linguistes et philologues. Si nous nous référons à deux grammaires récentes du japonais classique, écrites de deux points de vue fort différents, le Classical Japanese de Haruo Shirane de 2005, qui est un historien de la littérature et philologue, donc, d'une part, et d'autre part à A Reference Grammar of Classical Japanese Prose d'Alexander Vovin, l'un des linguistes japonisants les plus subtils et originaux actuellement en activité, nous voyons que ni l'un ni l'autre ne parle de temps grammaticaux. Vovin va jusqu'à distinguer 12 modes dans le japonais, et je ne vais pas les énumérer, il en mentionne un en particulier qui est le conjectural, le tentative, que je peux appeler aussi l'éventuel, qui correspond au plus près à ce qu'on pourrait appeler le futur. Et d'ailleurs, les grammairiens du XIXe siècle, comme Aston, n'hésitaient pas à employer le mot de futur à propos de ce temps qu'on appelle suiryo en japonais. C'est si peu du futur que son reflet actuel en japonais moderne, très différent du japonais classique, mais qui en découle directement, est utilisé pour les bulletins météorologiques de la télévision. Donc, et pourtant, et là aussi à l'insu des grammairiens, le futur sanskrit s'est insinué dans la langue japonaise, comme de bien entendu par l'intermédiaire du chinois. Par exemple, pour changer du sutra du lotus, je vous donne un exemple tiré du sutra de ce qu'on appelle couramment le sutra d'Amida, n'est-ce pas ? Donc, une traduction du IIIe siècle antérieure à Kumarajiva, où nous avons justement ce terme d'annonciation qui est Dangshou Pusajin, tu conféreras aux bodhisattvas l'annonciation. Le Dangshou, qui veut dire tu conféreras, il conférera, est traduit en japonais par Masani Sazuku Beshi, vous voyez que ça n'a rien à voir, donc ce sont des mots complètement différents, et la locution verbale chinoise dangshou est rendue en japonais par une forme périphrastique que les japonais actuels, et probablement leurs ancêtres de l'époque également, interpréteraient comme signifiant à peu près « tu dois sans nul doute conférer », ce qui serait au mieux un faux sens. Il ne signifie rien d'autre que le futur sanskrit. Il est inutile de dire qu'ici non plus, les grammairiens, pour ne pas parler des linguistes, n'ont pu identifier cette tournure. Bien que les innombrables manuels de sino-japonais ne manquent pas de souligner la tournure que je viens de vous décrire, le Masani Beshi, comme signifiant l'obligation, nous n'avons jamais de mention spécifique pour la donner comme langue future. Nous avons pourtant, en japonais donc, comme en chinois, une crypto-conjugaison qui entend suivre au plus près les nuances de la langue sanskrite. La même chose existe pour le présent et le passé, mais ce sont des formes plus faciles à identifier, et je ne parlerai pas, c'est l'avenir qui me préoccupe. Si l'expression grammaticale du futur est restée quelque peu inaperçue en sino-japonais, la dimension de l'avenir s'est pleinement installée, elle, au Japon comme en Chine, et le système des trois temps apparaît aussi naturel dans l'archipel que sur le continent. Je voudrais, pour terminer, montrer par deux exemples pris dans la poésie japonaise classique, comment cette idée du futur s'est profondément ancrée dans la pensée religieuse, et avant tout par le Sutra du Lotus, qui est au centre de la vie intellectuelle japonaise dans l'âge classique, par excellence, qu'est l'époque de Heian, donc du 9e, des environs de 800 aux environs de 1200. Et tout d'abord, ce poème d'un poète que vous connaissez bien pour ceux qui suivent mes cours, Jien, 1155-1225, que je donne ici parce qu'il résume parfaitement plusieurs éléments abordés. Il est fait sur une citation explicitement, n'est-ce pas, nous avons la citation, il est fait sur une citation chinoise du Sutra du Lotus, où le Bouddha Shakyamuni expose qu'il a attiré et orienté les êtres vers la sagesse du Bouddha, c'est-à-dire l'enseignement du lotus, grâce à des relations originelles. Et il emploie le mot « innen », c'est-à-dire afin de leur révéler maintenant le sutra. C'est ce mot « relation »,« innen », que je traduis par « relation » afin de garder l'ambiguïté de sens. C'est à la fois les histoires et les relations causales. C'est le même donc que celui qui signifie les liens causaux dont je parlais précédemment, le principe dynamique de la tritemporalité. Remarquons que cette notion est liée à celle des expédients salvifiques, les hoben, qui ce sont des expédients par lesquels le Bouddha fait progresser les êtres, qui n'ont rien à voir avec la réalité, mais qui sont commodes parce que les êtres peuvent les comprendre, n'est-ce pas ? Et donc, cette notion relève purement du phénoménal, de ce qui est à dépasser. Ce n'est pas du tout la vérité absolue. Les trois temps ne sont pas un absolu, mais une commodité de représentation d'un autre monde. Et le poème de J.N. que je vous donne maintenant en français, enfin que j'ai traduit tant bien que mal, en a passé invisible et lointain, contracté, c'est ce qui va suivre, c'est pas le passé, en a passé invisible et lointain, contracté, le serment d'attente au pain d'Iwashiro, maintenant sera délié. Comme toujours dans la poésie japonaise ancienne, on n'en finirait pas de mettre en évidence les raisonnements et les jeux de mots de cette pièce si brève. Vous avez les verbes musubu et toku, et contracter, nouer un lien, un serment, etc. Toku qui veut dire se libérer d'un serment, et qui veut dire aussi exposer, dire. Et donc il répond à la fois à musubu, relié, lié, et Iwashiro, qui est un nom géographique, mais qui ressemble à une forme verbale qui veut dire « il ne dira pas ». Donc vous voyez, il manie les contraires. Et le double sens de matsu, matsu veut dire les pins, le pin de Iwashiro, donc ça veut dire les pins de l'endroit, du lieu Iwashiro, mais ça veut dire, matsu veut dire aussi attendre. Donc nous attendons ce qui n'a pas été dit. Donc, on voit que les trois temps, qui sont indiqués par Miyo dans la poésie japonaise, sont ici exprimés sous la forme de « autrefois », en un passé invisible, Mukashi, en « maintenant », Ima, et Matsu, qui est l'attente, le pain et aussi l'attente, et le futur. L'attente étant évidemment l'attente eschatologique de la révélation lotusienne qui délivre le monde. L'avenir est le lotus, à la fois pour le monde en général et pour l'individu qui le comprend et le met en pratique. Les deux dimensions de la tritemporalité, cosmique et individuelle, sont toujours présentes dans cette poésie bouddhique. Un second exemple nous intéresse aussi parce qu'il renverse et inverse une locution poétique traditionnelle. Encore une fois, sur une citation du Sutra du Lotus, qui porte sur les expédients salifiques, le Bouddha assure que quiconque entendra prêcher la loi, même involontairement, finira immanquablement par devenir Bouddha. Et sur ce passage, Jien nous dit « tous la dépassant, en vague ils entreront en la voie des veillées, montagne au pain, attente du terme de l'écoute de la loi. » Ici encore, il y a beaucoup à expliquer. Disons simplement que ce poème s'inspire d'un autre plus ancien, une pièce amoureuse du premier grand recueil poétique japonais, le Kokinshu de 905, où l'amant transi, cette fois, ça n'a rien à voir, déclare à sa belle, enfin, je ne sais pas exactement quelle est la relation, voici ce qu'il dit, « que si vous délaissant, mon cœur vers une autre se porte, les vagues alors dépasseront les monts boisés de souhait. » Nous voyons ici que le toponyme poétique, qui est « souhait no matsuyama », et on retrouve « matsu », donc exprime à l'origine une impossibilité. « Jamais les vagues ne dépasseront ces collines couronnées de pins, et fidèle à toujours sera l'amant. » Mais Jien annonce que des vagues entières de pratiquants dépasseront d'un saut, « koete », cette montagne, en prenant le toponyme dans son sens ordinaire, la montagne où l'on attend le terme de la loi. La montagne devient celle où est prêché le lotus, c'est-à-dire le mont des aigles, et le terme « sue », qui est dans le toponyme, le terme que l'on attend, « matsu sue ». C'est la relation c'est la réalisation en notre esprit de l'enseignement du lotus. Dorénavant, non seulement dans la poésie japonaise, mais dans la prose littéraire classique, la locution « yukusue », le terme où l'on se dirige, le but où l'on va, est une périphrase désignant l'avenir. Il n'est alors plus besoin d'un futur grammaticalement marqué, puisque l'avenir est désormais intégré dans la représentation mentale japonaise, comme il le fut en Chine. L'avenir ainsi ouvert par le bouddhisme ne se referma pas. L'une des conséquences littéraires les plus marquantes en fut la vogue à partir de la fin de l'époque de Heian, donc le XIIe siècle, des notes sur l'avenir, le Mirai-ki, Mirai reprenant le terme bouddhique de « avenir », des recueils de prédictions dont le prototype, remontant peut-être au XIe siècle, donc, est attribué à nul autre que le prince Shotoku lui-même, mort en 622, le modèle des souverains bouddhistes dans l'histoire japonaise. Ce genre a été étudié par mon collègue et ami, le professeur Komine Kazuaki, et fait l'objet, grâce à lui, d'un intérêt renouvelé dans la recherche. Et on peut, c'est une opinion, c'est mon opinion et je la partage, comme disait les Dupont-Dupont, on peut y voir l'héritier direct des scènes d'annonciation, des kibetsu, des sutras bouddhiques, et une conséquence de l'invention de l'avenir. On aura bien compris que je ne considère pas cette diffusion de la tritemporalité en Extrême-Orient comme un progrès. Les textes bouddhiques nous disent clairement, nous l'avons vu, que cette triple dimension n'est que la scène qui permet au phénoménal et à l'impermanent de se déployer. Le domaine de Bouddha, le plan de loi qui est le fondement invisible et pour nous inatteignable de la vérité suprême, est au-delà de cette linéarité. Mais elle a permis à l'Asie sinisée de se mettre au diapason du reste de l'Eurasie et a contribué en ce sens à faciliter l'échange continu d'idées et de doctrines qui s'effectue depuis des millénaires dans ce continuum culturel. Dans un livre récent, « L'ordre du temps », le physicien Carlo Rovelli, qui est bien connu ici, n'est-ce pas, nous dit, je condense un peu sa citation, « Nous pensons communément au temps comme quelque chose de simple, de fondamental, qui s'écoule uniformément du passé vers le futur. Dans le temps, les événements de l'univers se succèdent en bon ordre, passé, présent, futur. Le passé est fixé, le futur ouvert. Eh bien, tout cela s'est révélé faux. Et au fur et à mesure que nos connaissances s'affinaient, la notion de temps se désagrégeait. Le bouddhisme ne dit pas autre chose, mais pour détruire cette notion erronée, il fallait d'abord en avoir une claire représentation. C'est ce processus que j'ai esquissé ici de façon bien sommaire, faute de temps. Merci beaucoup.